אפשר קצת לדחוף כאן. כן. זהו. כן. בסדר. Ça, c'est le truc le plus important à mettre dans le film.
Ouais. Non, alors ça revient à la question, pour qui Manitou parlait ? Oui. Est-ce qu'il y a deux Manitou, Manitou en hébreu et Manitou en français ?
Disons comme ça, il n'y a pas de Manitou ni en français ni en hébreu. Il y a Manitou en Manitou. On pourrait dire que Manitou a dû créer un langage propre aux nécessités de sa génération, qui était la transmission d'une sagesse ancestrale en termes de culture générale. C'est d'ailleurs c'est comme ça qu'il expliquait la difficulté de Moïse à s'exprimer. Il disait, imaginez-vous quelqu'un qui devrait transmettre une sagesse ancestrale en termes de culture générale, et en fait, on voyait très bien que Manitou parlait de lui-même.
D'accord. Alors bon, je n'ai pas commencé par les politesses d'usage de présentation. Nous sommes ici chez le Rav Uri Cherki à Jérusalem. Merci de nous recevoir pour ce film sur Manitou. Vous êtes un des représentants en Israël, beaucoup de gens de la pensée de Manitou. Beaucoup de gens entendent parler pour la première fois de Manitou dans vos cours.
Oui, disons que je pensais que Manitou avait des représentants, il a plutôt des disciples. Et ce qui est, disons, caractéristique du disciple dans la tradition, et ça Manitou aussi l'enseignait, c'était justement la capacité de transmettre, c'est-à-dire d'être uniquement un canal. À tel point même qu'on pourrait dire que c'est l'élève qui, comme, pour reprendre un enseignement de Manitou, qui fait accoucher la pensée de son maître. Le mot « hatalmid » qui veut dire l'élève en hébreu, c'est les mêmes lettres que « hamiya ledet » qui veut dire la sage-femme. Et en fait, ce qui traverse, ce qui vient du maître, hein, c'est ce qui traverse le maître. Le maître est transcendé par la parole qu'il transmet, et donc on peut dire que la parole est plus grande que le maître lui-même. D'ailleurs, quand on demandait à Manitou « qu'est-ce que vous pensez de telle chose ?», il disait « ce qui est important, ce n'est pas ce que je pense, mais ce que je transmets. » Et ça, il a réussi à nous le transmettre.
Alors, on vient juste de chez votre frère, Eliezer, et je lui ai demandé de résumer, ce qui est très difficile, évidemment, la pensée de Manitou. Il nous a parlé de l'unification des valeurs.
Si l'unité des valeurs. Manitou emploie le terme d'unité des valeurs.
D'accord, oui. D'accord. Oui. Vous êtes d'accord avec ce résumé extrême
C'est le résumé de la définition de la morale, selon l'hébraïsme, par Manitou. C'est comme ça qu'il définissait le projet moral d'Israël. Alors on peut dire que le projet moral englobe l'ensemble du projet d'Israël. Et donc, de ce point de vue-là, je serais assez d'accord. Mais on peut dire que cette pensée s'articule, ou en tout cas se développe, dans deux thèmes principaux. D'abord, celui de l'identité. Le problème de la définition de l'identité humaine est cardinal chez Manitou. Vous connaissez bien sûr sa fameuse phrase « le passage du juif à l'hébreu ». C'est une question de passage d'identité. Et il y a également le problème de la fraternité. Comment est-ce que cela se transmet de génération en génération? Le problème de la rivalité et de la paix entre les êtres, entre les créatures, c'est un thème central qui développe justement cette finalité morale.
D'accord, d'accord. Donc c'est d'autres éléments. Oui, effectivement, il y a beaucoup d'aspects de Manitou. On a filmé un congrès à Bar-Ilan et chaque intervenant parlait d'un autre aspect de Manitou. Manitou et la Shoah, Manitou et l'éducation. Qu'est-ce qu'on a eu Manitou et la Kabbalah.
Oui, mais on pourrait dire que c'est à la limite une banalité. C'est la réalité qui est faite de beaucoup de facettes. C'est-à-dire la Shoah est une donnée de notre existence avant que Manitou y ait réfléchi. De même l'éducation et de même l'État d'Israël, enfin de même l'économie. Le fait que Manitou ait parlé de beaucoup de choses, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses dans le monde. Mais c'est toujours le même observateur qui se penche sur les différentes dimensions de l'être.
D'accord. Est-ce que vous seriez capable de vous adresser à un public qui ne connaît pas Manitou et lui expliquer pourquoi Manitou est un... Alors qu'il est décédé depuis déjà 25 ans et qu'il y a beaucoup de rabbins, il y a beaucoup de livres. Pourquoi est-ce important de nos jours de connaître les enseignements de Manitou?
Oh, tout simplement parce que Manitou considère que le judaïsme a quelque chose à dire sur la réalité du monde. On ne pourrait pas simplement réduire le judaïsme à un culte, une religion qui se préoccuperait simplement de l'aspect culturel et émotionnel de l'homme. Le judaïsme est un projet. Et ce projet, Manitou le met en évidence. Et surtout, c'est un projet qui prend toute son ampleur à la lumière des événements historiques que notre génération a connus et connaît. Et donc, de ce point de vue-là, on peut dire que le discours de Manitou est absolument indispensable pour une génération qui se pose un problème d'identité. C'est ce qu'on appelle un discours identitaire, de savoir qui suis-je avant de savoir ce que je dois faire. Ce que je dois faire est la dérivée de ce que je suis tout d'abord. Il y a une centralité de la personne chez Manitou avant la définition en tant qu'objet. Je suis tout d'abord un sujet avant d'être un objet. Et je pense que c'est ça qui touche en profondeur les interrogations de notre génération.
S'il y avait un sujet qui le mettait en colère, c'était l'antisionisme et le fait qu'une partie des gens qui se réclament de la tradition d'Israël soit contre la création d'un État.
Bon, évidemment, Manitou était comme il se doit, puisqu'il croyait en la Torah, il était donc sioniste. Mais la raison de la véhémence de la réaction de Manitou par rapport au phénomène du charédisme, c'est surtout parce qu'il y a ici une déchirure de l'identité. C'est-à-dire le problème de savoir qui est Israël. Est-ce qu'Israël, ce sont les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob, c'est-à-dire une nation, ou est-ce que ce sont les élèves d'un maître, de Moshe en l'occurrence? Alors il est évident que si on penche du côté, disons, du côté religieux, si vous voulez, de la tradition d'Israël, alors ça nous amène finalement et en fin de compte à la négation de l'identité nationale d'Israël, ce qui a été à l'origine du christianisme à ses débuts. Et donc on peut comprendre, disons, l'inquiétude de Manitou par rapport à ces tendances, et donc c'est la raison de sa véhémence par rapport à cela. Au niveau personnel, Manitou était ami de nombreux charédim, entre autres le rabbin Rothenberg, et encore d'autres personnes pour qui il avait une affection réelle, même s'il était tout à fait opposé sur le plan, pourrait-on dire, doctrinal. En fait, Manitou est grand dans ce sens qu'il a su identifier le moment de l'histoire où le passage de la dimension restreinte du judaïsme qui se prend pour une religion au retour à la restauration de l'identité nationale, c'est le moment où ça se produit. Il a réussi justement à travers son équation personnelle, à arriver à cette conclusion.
Bon, et de l'autre côté, vous êtes ici dans un quartier Haredi, qui est devenu Haredi, je crois aussi. Donc, d'importantes parties de la population juive, voilà, un important courant, pense que voilà, l'État tel qu'il est, le retour tel qu'il a été fait par des non-religieux, etc., c'est plutôt laïque, c'est plutôt emprunté au goyim, mais ça n'a rien de juif et
Oui,
que.
je vais vous dire un aparté de Manitou qui disait que, vous savez, on parlait souvent, dans ma jeunesse encore, d'histoire sainte. C'est une expression employée au catéchisme, en fait. Quand on parle d'histoire sainte, cela supposerait qu'il y a une partie de l'histoire qui est sainte et une autre partie de l'histoire qui est profane. Et ce que la Bible nous enseigne, c'est que l'histoire est sainte. C'est-à-dire qu'il y a un sens à l'histoire dans son ensemble, quels qu'en soient ses acteurs. Je me rappelle que chez mon maître, le Rav Tzvi Yehuda Kouk, qui était également le maître de Manitou, une fois est arrivé un rabbin des États-Unis qui a demandé au Rav, mais est-ce qu'on peut accepter qu'une rédemption, une libération d'Israël se fasse par des laïcs? Et alors le Rav a levé la main au ciel en disant, Ah, vous avez des questions contre le créateur du monde. C'est-à-dire, la donnée historique est que l'accomplissement des paroles prophétiques s'est fait par l'intermédiaire des chilonim, et la question n'est pas de savoir si c'est bien ou si c'est mal, le problème est de savoir qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers cela, qu'est-ce que ça signifie au niveau providentiel. Un phénomène de cette ampleur ne peut pas être dénué de sens. Or, c'est ça que nous devons découvrir et non pas juger de l'action du Créateur. Disons, le problème de savoir qu'est-ce que nous enseigne la Torah. Est-ce que la Torah nous apprend à juger des événements en fonction de leur religiosité, ou est-ce qu'elle nous apprend à découvrir la main de la Providence à travers l'histoire? Or, il suffit de lire le Tanakh, depuis le début jusqu'à la fin, de considérer les enseignements de nos maîtres dans le Talmud et dans la Kabbalah, pour se rendre compte que c'est cette option-là qui est relevée. C'est-à-dire la dimension de l'accomplissement des mitzvot, qui est une évidence évidemment pour tout juif fidèle à la Torah, n'est pas le seul critère de jugement de la réalité. Et je pense que c'est ça que Manitou a bien mis en évidence, et de ce point de vue-là, il est tout à fait fidèle à l'enseignement des grands maîtres du judaïsme.
D'accord. Alors maintenant, sur une accusation qui vient d'un autre camp, c'est celui du camp laïque, on va dire laïque et de gauche. C'est encore c'est deux. Il y a une nuance, mais on dit que voilà, Manitou parle effectivement de philosophie, dans un langage philosophique parfois. Il aborde des thèmes variés avec une langue académique très, très belle et très recherchée. Mais finalement, c'est toujours pour dire « et le judaïsme a raison ». Il y a une sorte de tropisme de dire finalement, il y a eu les Grecs, les philosophes, mais finalement…
Est-ce qu'on a le droit de penser que le judaïsme a raison? Je pense qu'on a tout à fait le droit de le penser, surtout si on arrive à le démontrer. C'est-à-dire, Manitou n'était pas le porteur d'une foi aveugle. Manitou enseignait la Torah et il considérait que cette tradition était authentique, qu'elle avait quelque chose à dire, qu'elle était l'expression du mouvement prophétique dans l'histoire, et c'est tout à fait légitime de défendre cette position. On peut évidemment reprocher à Manitou de ne pas être un philosophe, mais on peut également reprocher aux philosophes de ne pas être des rabbins. Je pense que c'est malvenu d'en vouloir à Manitou de ne pas avoir été philosophe, même s'il savait s'exprimer en termes philosophiques. C'est un peu comme Maïmonide. Pourquoi est-ce que Maïmonide, après tout, était le Rambam?
D'accord, mais enfin, l'accusation qui est derrière cela, c'est de dire que ce n'est pas très objectif, on feint de réfléchir, et finalement, c'est de la prêche pour ramener des gens, universitaires à la...
Je n'ai jamais vu un homme sérieux, et Manitou en faisait partie, refuser la réflexion et l'interrogation. C'est-à-dire, il y aurait une idée reçue que l'on peut trouver dans certains cercles, qui est que l'homo religiosus, c'est-à-dire l'homme religieux, serait une entité à part, qui ne se pose pas certaines questions, qui n'a pas les mêmes interrogations que les autres. Je pense que rien n'est plus étranger que cela à la pensée de Manitou. Si je peux parler pour moi-même, je me rappelle avoir eu une fois une rencontre avec un non-religieux au Machon Meir qui m'a dit « Mais puisque tu es religieux, c'est certainement qu'il y a des questions que tu n'oses pas poser. » Il était très embêté quand il a appris que je posais les mêmes questions que lui. Ça l'a beaucoup gêné parce que ça empêche justement de cadrer l'homme religieux dans un cadre qui le rend inoffensif. En fait, la pensée de Manitou est une pensée simplement humaine. Manitou insistait beaucoup sur le fait que le Créateur a eu une idée assez étrange, c'est de mettre les Juifs et les non-Juifs sur la même planète. Ça voudrait donc dire qu'il y aurait quand même un projet commun et que l'interaction entre la tradition philosophique et celle d'Israël aurait quelque chose de bénéfique dans le cadre de l'histoire. Est-ce que parce qu'il y a une interaction, cela voudrait dire qu'il y a identité? À mon avis, c'est être complètement à côté de la plaque.
Alors, je vous connais depuis des années et vous avez un grand sens de l'humour. Très souvent, vous faites des blagues dans vos cours.
Ah, je ne me suis pas rendu compte.
Et Manitou aussi. Alors, est-ce que vous avez pris un sens de l'humour dans les cours de Manitou?
Où est-ce que
ça vient?
Au niveau personnel, je pense que c'est une tradition familiale chez nous. Le sens de l'humour, à peu près dans toutes les branches de ma famille. J'irai même un peu plus loin. J'imputerai ça peut-être partiellement à la tradition séfarade. J'ai grandi dans des milieux de rabbins nord-africains, à l'époque où le séfaradisme existait encore, avant l'invention de Ch'ass. Et je me suis rendu compte que si j'essayais de trouver un dénominateur commun à ces différents maîtres, c'est que tous étaient normaux. La normalité, la relation directe envers la vie, sans arrière-pensée, sans complication, cela fait partie de la joie de vivre qui peut s'exprimer même d'ailleurs par le sens de l'humour.
Ah, lui, c'est très élaboré l'humour, il faut pas, c'est pas,
Ah,
c'est
l'humour est quelque
pas.
chose d'extrêmement
Ah
sérieux.
oui.
On pourrait retrouver des sources importantes à ce qu'est l'humour. Le fait même que notre deuxième patriarche s'appelle Il Rira, Yitzhak, c'est très lourd de sens. Vous connaissez d'ailleurs les enseignements de Manitou autour du rire d'Ishmaël et toute la problématique que ça représente. Donc le rire, ce n'est pas n'importe quoi, c'est très sérieux.
Et il faisait plus de jeux de mots que vous, par contre. Il avait de l'humour, un
Oui,
humour
parce
pas.
qu'il était à cheval justement sur la Aliya. La Aliya, c'est justement ces Juifs qui parlent le français et qui s'hébraïsent. Alors, c'était une manière de les intégrer. Tout le monde se rappelle évidemment de ce qu'il disait, que viendra un jour où en Eretz Israël nous serons à l'abri et que ceux qui habiteront à Natania auront un abri côtier. Et donc, ça faisait partie également, c'était un clin d'œil donc pour ces Juifs qui montaient à Natania, qui est une ville francophone en Israël.
D'accord. Donc vous dites que c'est une tradition nord-africaine
Et même un peu
et
familial chez moi, oui.
d'accord. Et oui, on peut dire aussi que l'humour, c'est prendre une distance par rapport aux choses. Et alors,
Au contraire, c'est peut-être être capable de voir les choses de très près, justement. C'est-à-dire, quand on voit les choses des choses sérieuses et graves, on les voit de très près. Si on n'a pas le sens de l'humour, on est incapable de les affronter.
je me rappelle qu'on avait parlé de ça il y a très très longtemps au Marcheau de Meir, que j'étais au Marcheau de Meir, parce que je vous avais dit, visiblement, le Rambam, Maïmonide, n'avait pas d'humour. Enfin, en tout cas, on ne le voit pas dans aucun de
Très
ses
peu.
écrits.
Non, très très peu. Il y a quand même quelques endroits dans le Guide des Égarés où
Ah oui, mais
cela
bon.
fuse, mais enfin,
Non.
c'est, disons, très comprimé.
Ouais, chez lui.
Oui.
Bon, c'est une personnalité aussi, c'est
Oui, bien
aussi une
sûr,
question
bien sûr.
de personnalité.
Mais comme disait Manitou à propos de Maïmonide, on voit dans le style de l'auteur une très grande harmonie intérieure, ce qui veut dire que c'était un homme heureux.
Ah bon?
Oui, et malgré toutes les misères que Maïmonide a connues dans sa vie personnelle.
Mais quelle harmonie entre le guide des égarés, le Mishnah Torah, il n'y a aucune harmonie. Au contraire, on se demande s'il n'y a pas
Oui, bon,
plusieurs hommes.
c'est une prétention universitaire. Je pense qu'une étude sérieuse de Maïmonide voit exactement l'identité entre tous ses ouvrages, une sorte d'harmonie permanente qui traverse son œuvre d'un bout à l'autre.
D'accord.
Si c'était un
Alors,
film sur Maïmonide, on en
oui, c'est
parlerait.
ça. Venons, revenons à Manitou. Beaucoup de gens entendent parler de Manitou pour la première fois par vos cours. Et alors, beaucoup de gens disent au début, mais c'est qui D'abord, le nom est étrange, Manitou. Ils entendent Manitou.
Oui.
En plus, il y a le côté français, le côté philosophe français, Olé Hadash, etc. Et certains font pas l'effort d'ailleurs d'aller chercher, d'aller écouter. Mais certains le font et puis voilà, sont séduits et il y a des
Ce qui
maintenant.
est séduisant, c'est justement cette insertion dans la civilisation philosophique d'Europe. Mais en vérité, pardon. En
Oui.
vérité, Manitou est un kabbaliste. C'est ça qu'il est avant tout. Et en tant que kabbaliste, il prolonge la tradition de la parole prophétique. Et on pourrait dire que tout l'effort de la formulation de Manitou, c'est un effort de transmission, si vous voulez, en coulisses de la Kabbale dans les cadres de la pensée moderne. Ce n'est pas du tout une rationalisation ni une adaptation. Si vous voulez, c'est une tentative réussie de faire passer un message. Au-delà, pourrait-on dire, même du conscient des auditeurs. Il est surprenant de voir que beaucoup d'auditeurs de Manitou, quand ils étaient dans une conférence, étaient persuadés que Manitou s'était adressé uniquement à eux dans la conférence.
Ouais.
Mais ils n'étaient pas les seuls.
Et vous êtes surprise par ce phénomène-là de réveil autour d'engouement autour de la personnalité, autour des
Bon, on
cours de
peut dire que c'est
Manitou?
effectivement assez surprenant. Nous qui avons connu Manitou de près, qui étions, disons, dans le cercle qui, disons, normalement était autour de lui, de se rendre compte qu'aujourd'hui, certaines fractions de la société israélienne, qui a priori n'était pas censée être sensible à cet enseignement, est sensible. Cela veut donc dire que Manitou a touché la note musicale du subconscient collectif de notre génération, et ça c'est très important. Manitou d'ailleurs disait ça également des maîtres, qu'il y avait un temps pour chaque maître. Il y a le temps pour le Maharal de Prague, un temps pour Rabbi Nachman de Breslav, un temps pour le Rav Kook, et que chaque génération, il faut savoir distinguer le moment de la génération où telle note doit être entendue. C'est une sorte de diapason. Or, Manitou était capable justement de se rendre compte de ce qui était l'appel des personnalités de notre génération.
Et donc, vous l'avez connu personnellement. Est-ce qu'il souffrait du fait là, d'avoir été tellement important pour la communauté juive en France et en Israël, très peu entendu, très peu d'Israéliens, Tzabarim venaient à ses cours. Il n'a pas eu l'attention qu'il méritait.
Bon, c'est possible au niveau personnel, mais Manitou avait cette grandeur de savoir qu'une parole n'est jamais perdue. Et que s'il faut dire quelque chose, eh bien, il faut le dire. Et si c'est authentique, eh bien, ça fera son action le moment venu. On pourrait dire la même chose donc, de Rabbi Nachman de Breslav, qui pendant 150 ans, sa voix était extrêmement limitée à des cercles très restreints. Mais Rabbi Nachman de Breslav savait très bien que ce qu'il disait était pertinent et que viendrait un temps où il faudrait l'entendre. Eh bien, c'est exactement la même chose, à mon avis, pour Manitou.
Oui, d'ailleurs, il y a un paradoxe incroyable, c'est que maintenant, les jeunes juifs français, enfin, oui, ceux qui ne l'ont pas connu personnellement, c'est les personnes âgées, les jeunes ne connaissent pas Manitou en France. Les juifs.
Ah oui, mais c'est très simple.
Et les Israéliens, eux, commencent à connaître. Il a changé.
Mais c'est tout à fait normal. Ouais. Le judaïsme de France, qui n'a pas fait son alia, opte justement pour un refus du sionisme de Manitou. Et donc, il y a une sorte d'occultation du rôle qu'a eu Manitou après la guerre pour le rétablissement de la communauté juive de France, et après son enchaînement justement dans la chaîne du sionisme et du retour en Israël. Étant donné que cette dimension-là a été refusée, il est normal que poliment on cache le rôle de Manitou.
D'accord. Qu'est-ce qui vous semble important de dire, parce que la crainte qu'on a dans un film, c'est évidemment de faire quelque chose de toujours trop court, trop superficiel. Mais s'il y avait quelques points centraux à mettre en avant...
Il y a un point fondamental dans l'enseignement de Manitou, c'est l'universel. Et c'est, à mon avis, fondamental. Aujourd'hui, s'il y a un débat sur la scène publique, aussi bien en Israël que dans le monde entier, c'est, si on veut être caricatural, entre l'option gauche et droite... Et le problème de savoir, est-ce que l'homme a des racines et donc il refuse l'humanité, ou est-ce qu'il est humain et donc il refuse ses racines? Et ce problème, qui est d'origine européenne, mais en fait est un problème classique de l'identité humaine. Est-ce que Socrate est un Athénien ou est-ce que c'est un cosmopolite? Et ce problème est résolu dans la tradition d'Israël, étant donné que Israël est une nation et que cette nation a une vocation universelle qui n'a pas été greffée tardivement mais qui fait partie de son essence. En effet, avant même la fondation de la nation d'Israël, déjà il est dit « tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations de la terre ». Et donc le projet sioniste d'Israël est fondamentalement à répercussion universelle. Et donc le conflit gauche et droite, qui est un peu, disons, caricatural et un peu, disons, schématique chez les nations, ne se pose pas quand on parle du judaïsme. Et donc, on peut dire que la préoccupation fondamentale de Manitou a été qu'est-ce que cette parole va dire finalement à l'humanité. C'est vrai que Manitou s'est adressé en premier lieu aux enfants d'Israël, ce qui est normal, mais il a toujours entretenu des relations avec les traditions spirituelles de l'humanité, et ceci parce que cela était son véritable souci. Je me rappelle lui avoir demandé un jour quelle serait la prochaine phase de la libération d'Israël. Et après quelques secondes de réflexion, il m'a répondu « Mais c'est la Torah pour les nations ». C'est une des raisons d'ailleurs qui m'ont poussé personnellement à m'engager dans cette mouvance et à diffuser le noachisme dans le monde. Et je pense que c'est une dimension qu'il ne faut pas oublier. Il y a également chez Manitou une recherche véritable de l'écoute. C'est-à-dire pour lui, le prophétisme n'est pas un vain mot. Le retour de la présence de la Shekhina parmi les enfants d'Israël n'est pas un vain mot. Et c'est-à-dire, en fait, on pourrait dire que c'est assez surprenant, mais Manitou prenait au sérieux le projet de la Torah.
D'accord, donc universalisme et retour du prophétisme.
Oui, absolument. Absolument. Et donc là, également, tout cela à travers disons, cette centralité qu'il accordait à la pensée du Rav Kook. Bien que Manitou était alimenté à beaucoup de sources judaïsme, entre autres le chassidisme, entre autres Jacob Gordin, oui. également ses maîtres kabbalistiques, ses connaissances de l'anthropologie et de l'ethnologie. Tout cela, bien sûr, se mêlait, mais retrouvait son fruit mûr à travers la pensée du Rav Kook, qui pour Manitou était la phase de conclusion de la tradition de la pensée d'Israël.
Et donc c'est un peu ambitieux, on va dire.
Si on ne prend pas la responsabilité de la condition humaine, alors on pêche par rapport à la condition humaine. Si on refuse le projet d'Israël, alors on pêche envers Israël et en passant, on pêche également contre l'humanité. Qui attend d'Israël un message, qui attend d'Israël une parole.
Je vous ai fait écouter un extrait, mais sans donner de nom, mais c'est une critique qu'on entend, c'est qu'il y a des dangers du messianisme. C'est-à-dire, au nom de certains idéaux, on peut commettre les pires atrocités à travers. Enfin, c'est ce qui s'est passé à travers l'histoire.
Oui.
Et donc, certains pensent que Manitou est tombé. Et d'ailleurs, vous aussi, on vous accuse souvent d'être messianiste. C'est un mot qu'on entend, c'est un qualificatif. Est-ce que vous êtes dangereux alors
Vivre sur Terre, vivre l'histoire est dangereux. Il est dangereux de vivre. Et donc, ne pas vivre serait peut-être plus facile, comme disait Manitou, au nom des mystiques d'Extrême-Orient. Il est plus facile d'être assis que debout, allongé qu'assis, mort que vivant. L'histoire nous interpelle, l'histoire exige de nous de prendre une position et d'amener le monde à un monde meilleur.
Et alors, est-ce qu'il n'y a pas un piège? Parce que c'est quoi dangereux? C'est-à-dire, au nom d'un idéal magnifique, mais qui est tellement élevé,
alors,
on risque d'écraser...
Alors, essayons de relever d'abord deux choses. Que veut dire ce messianisme et que veut dire l'utilisation négative?
Voilà.
Bon, alors, pour ce qui est du messianisme, ne pas être messianiste, à mon avis, est immoral. Parce que cela voudrait dire que l'on reste indifférent par rapport au devenir de l'humanité. Or, donc, être messianiste est une exigence morale. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par messianisme? Il s'agit justement d'avoir la conviction que nous avons les moyens pratiques dans la réalité d'amener le monde à un meilleur état. On pourrait dire, de ce point de vue-là, le marxisme a été un messianisme. Par contre, le christianisme, de ce point de vue-là, n'est pas messianique puisqu'il ne fait pas confiance à l'homme et qu'il fait intervenir Dieu directement dans la réalité pour sauver l'homme. Et donc, le judaïsme est un messianisme dans ce sens qu'il a un projet et que ce projet d'amélioration du monde est réaliste, même s'il prend plusieurs milliers d'années. De refuser le messianisme, ça voudrait donc dire refuser de donner un sens à l'histoire. Et évidemment, étant donné que le messianisme est un projet de type moral, il implique toutes les dimensions de la morale, y compris la morale individuelle, même s'il y a, par exemple, autour du messianisme, un conflit de type national et territorial avec une autre nation. Mais s'il faut, par exemple, respecter le droit personnel de chaque individu, quelle que soit sa nation, s'il possède une parcelle de terre, etc., il ne s'agit pas de léser qui que ce soit, ni de spolier qui que ce soit, mais il y a ce qu'on appelle un conflit de type national. Or, faire l'abstraction de ce conflit, ça reviendrait à une sorte de relativisme qui justifierait tout narratif, par exemple, considérer que le narratif de nos ennemis est équivalent au nôtre, ce que Ilian Amadou Livassi appelait adopter la subjectivité de l'adversaire. Or, là, il y a également un problème moral profond. Quand on refuse sa propre identité, alors, en fait, on tombe sous le masque d'un projet moral en dehors de la moralité. Rappelons une chose importante.
Oui.
Le messianisme juif implique le rétablissement de la justice sur terre. Tandis que le christianisme nous a enseigné que c'était pour l'amour que venait le Messie, chez les juifs ce problème ne s'est jamais posé, étant donné que nous savions faire l'amour sans le Messie. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est le fondement de toute la Torah, disait Rabbi Akiva. Et donc à quoi sert le Messie? Eh bien, c'est un personnage politique. Selon les auteurs, y compris Maïmonide. Un personnage politique est là justement pour rétablir la justice sur Terre. Et la justice implique également l'emploi de la force, parfois. ce qu'on peut appeler parfois la violence, mais c'est simplement le rétablissement du droit. Vous connaissez tout ce débat qu'il y a, ramené par Rachi, entre les nations et Israël à propos de l'utilisation de la force pour accomplir la promesse d'Eretz Israël. Et tout le problème de savoir est-ce que l'homme agit à travers le mérite, est-ce qu'il y a un mérite qu'il faut acquérir pour prendre possession d'Eretz Israël, ou est-ce qu'il faut attendre que ça tombe du ciel, à une manière, disons, un peu magique. De ce point de vue-là, on peut dire que certains éléments extrémistes du charédisme et du gauchisme se retrouvent, en fait, sur le même terrain.
D'accord. Manitou, donc on en a parlé, il avait de l'humour, il était généreux, il enseignait...
Il était prêt à se donner entièrement pour un élève.
Voilà. Alors, lorsqu'on lui demandait pourquoi il n'avait pas écrit, alors il a donné deux raisons. C'est d'une part, il n'avait pas le temps, parce qu'il enseignait tout le temps.
Oui.
Il a dit d'autre part qu'il avait, ça me rappelle quelqu'un d'autre d'ailleurs, qu'il avait peur que s'il écrit, ses enseignements soient déformés.
Il avait répondu à André Neher qui lui avait posé cette question. Il a répondu, c'est vous qui allez faire des livres et moi je vous ferai des lecteurs.
Voilà.
C'est-à-dire que Manitou voulait surtout former des personnes. De ce point de vue-là, c'était un éducateur plus qu'un écrivain, bien qu'il a écrit quand même pas mal de choses. Vous avez les deux volumes de Kimitzion et puis vous avez également La parole et l'écrit. Voilà. Ça fait quand même une somme assez importante. Mais on peut dire que ce qui est au centre de la pensée de Manitou, c'est justement la parole. Il disait lui-même, je suis de la loi orale, pas de la loi écrite. Je pense que cette histoire de je n'ai pas le temps, on va me déformer, c'est toujours. C'est plutôt une échappatoire, d'accord.
D'accord. Et alors, vous pensez que ceux qui connaissent Manitou par ses cassettes, par ses enregistrements, oui, ils ont accès à la parole de Manitou ou ça...
Alors, c'est toujours le problème, vous voyez, quand on transmet. Un enseignement d'un personnage fondamentalement oral, alors il y a toujours une sorte de déperdition du goût. Mais peut-être qu'il y a également une transformation. C'est-à-dire, si c'est une parole qui est transmise, eh bien, il faut que ça change en restant toujours la même chose. Ou bien que rester toujours la même chose en changeant. Et le problème, simplement, c'est de la fidélité. Ne pas faire dire au maître ce qu'il n'a pas dit.
Oui, voilà. Alors, parce qu'il y a eu quand même des époques différentes dans sa vie.
Absolument.
Oui.
Une évolution, il y a une pensée qui a évolué.
Le contexte.
Oui, également donc des relations qui ont été entretenues à certains moments, coupées à d'autres, etc. Bien sûr.
C'est pour ça. J'avais demandé aux filles de Manitou de me dire est-ce qu'on peut deviner ce qu'aurait dit Manitou sur la situation politique.
Je veux dire quelque chose. Quand on a de la considération pour quelqu'un, c'est quand on considère quelqu'un comme étant un grand. Mm-hmm. Alors, ça veut dire qu'on ne peut pas savoir ce qu'il aurait dit dans telle situation. Dire « je sais ce qu'il aurait dit si », c'est déjà le réduire aux dimensions de l'auditeur. D'accord ? Mais ce n'est pas Manitou. Manitou était souvent surprenant.
Enfin, je l'ai dit à votre frère avant, j'ai entendu Manitou, je témoigne, dire au sujet des grands maîtres d'Israël qui n'ont pas forcément, dans l'histoire... expliciter la mitzvah de monter en Israël, etc. Il a dit, Manitou, je pense que de nos jours, avec ce qui s'est passé, je me permets de penser à de dire ce qu'ils auraient dit de nos jours.
Oui, d'accord, mais
le prenait.
Oui, quand on dit je me permets de, cela veut dire que c'est pas si simple.
C'est pas si simple, ouais, d'accord. Et vous êtes de cet avis aussi que peut-être que si Rambam était de nos jours, il aurait été sioniste.
Je pense que Rambam était plus sioniste que le Ramban, tout simplement. On voit très bien l'atmosphère de l'enseignement de Maïmonide est une atmosphère de type politique. Pour lui, les Hébreux sont une nation. Et cette nation a un projet qui s'établit sur Terre à travers les moyens de la politique. Et donc, je pense que, si vous voulez... Maïmonide, même s'il ne le formule pas de cette manière, est sioniste jusqu'à la moelle.
Mais les 2000 ans d'histoire...
Les 2000 ans de l'histoire ont toujours été vécus comme une attente. Vous n'avez qu'à voir tous les rituels de prière. Les rituels de prière sont une complainte permanente sur la situation de l'exil et l'espérance d'en sortir. C'est une évidence. À partir du moment où on sort de là, eh bien, on admet la thèse chrétienne.
Mais il y a une transformation, c'est ce que dit d'ailleurs Manitou, ce que nous a enseigné Manitou.
Alors, l'exil n'a pas servi à rien, évidemment. L'exil a rempli une fonction. Mais c'est quand vous êtes hospitalisé, c'est pour justement retrouver après votre vie normale. Oui. Si vous prenez l'habitude de l'hôpital et que vous pensez que puisqu'on est si bien soigné là-bas, c'est là qu'il faut rester, ça pose un problème.
Il n'était pas un rabbin comme les autres qui viennent dispenser la morale. Il y avait un côté humain. Et lorsque
il évitait le hiératisme. Le hiératisme, c'est une manière de sérieux religieux un peu pontifical.
Voilà.
Manitou refusait.
Et lorsque j'en ai parlé aux filles de Manitou, elles ont pris une position de retrait. Au contraire, elles ne veulent pas que les gens s'approprient leur papa, c'est notre père à nous, c'était pas votre père. Il ne faut pas le transformer en gourou et en...
Il ne s'agit pas de faire un gourou, il s'agit simplement de connaître la grandeur justement de l'humanité de la personne. On ne peut pas réduire Manitou aux dimensions de sa famille, quand même, je pense. Bien que Baruch HaShem, il avait une famille. Je l'ai connu personnellement, à travers sa famille aussi, etc. Nous étions en relation assez proche entre nos familles d'ailleurs. Son père, le Rav David Ashkenazi, grand rabbin d'Algérie, était un ami personnel de mon grand-père, Aïzer Cherki. Donc, on était en rapport. Mais Manitou, justement, était grand à travers son sourire, à travers sa joie, à travers son orientation vers l'essentiel. Manitou disait toujours qu'il y a la Torah pour tout le monde, mais la Torah pour tout le monde, elle est la Torah de chacun. Or, il faut savoir quel est l'anneau particulier, le chaînon qui va relier telle personne à l'identité collective d'Israël.
D'accord. Alors là, on est le lendemain du jour de Jérusalem et vous avez donné votre avis sur la raison pour laquelle ce jour s'est transformé en un jour sectoriel, on va dire.
Qui concerne le judaïsme, enfin
les
religieux sionistes, voilà. Effectivement, oui.
Alors qu'auparavant,
quand ça a été fondé, ça concernait effectivement toute la société israélienne, de gauche ou de droite. Jérusalem était considéré comme un élément unificateur. Et donc, parmi les auteurs du défilé des drapeaux, il était question justement d'amener des représentants de tous les mouvements, aussi bien chilonim que datim, etc.
Alors, par rapport à la pensée de Manitou, justement, on m'a dit que dans les cours de Manitou, en tout cas en France, il y avait des communistes qui venaient...
Oui, c'est-à-dire que Manitou, beaucoup de personnes se sentaient concernées par ce que Manitou avait à dire, même si ce n'était pas pour, disons, prendre pour argent comptant tout ce qu'il disait. Mais au contraire, Manitou, je pense, était tout à fait satisfait d'entretenir ce genre de relation vivante avec l'ensemble des personnalités humaines. Il disait d'ailleurs « tous les juifs sont juifs, et même les juifs religieux ou enrhumés
». Est-ce que vous pensez que, je vous demande votre avis sur notre société, est-ce que vous pensez que la société israélienne est une société divisée, sectorialisée, est-ce qu'il y a des changements dans le bon sens ou au contraire
Tout à fait, je veux dire quelque chose de très important. Toute société est fragmentée et toute société tend à l'unité. C'est-à-dire, si on veut rentrer dans une sorte de dialectique à l'égal, alors vous aurez toujours... des oppositions de thèses dans la société, des thèses et des antithèses, qui finalement aboutissent à une synthèse. Mais quand les synthèses aboutissent, alors ceux qui la refusent, en général, sont dans les dehors de l'histoire.
Donc...
Disons, si vous voulez, c'est quelque chose de personnel, si vous voulez, mais je pense que je suis atteint d'un optimisme chronique. Mais on peut dire que l'origine de cet optimisme est dans l'enseignement de Manitou qui disait que nous savons qu'il y a un monde à venir puisqu'il est écrit que Dieu a créé le monde. Et donc ça veut dire que s'il y a un projet derrière l'histoire, eh bien ce projet, donc il y a quelqu'un qui en est responsable. Donc ça doit aboutir. Et comme disait Manitou, souvent les gens ne croient pas en Dieu. L'homme ne croit pas en Dieu, mais Dieu croit en l'homme. Et ça, c'est extraordinaire que Dieu ait une telle confiance dans le projet de l'homme, alors que même les anges du service n'étaient pas d'accord de le créer.
Oui, ça peut être à long terme, c'est un
Alors,
peu
à long terme, évidemment, à court
le...
terme, Manitou était toujours très réaliste. Il formulait d'ailleurs des inquiétudes très fortes. Par exemple, après les accords d'Oslo, il a été très inquiet pour l'avenir de l'État d'Israël, indépendamment de sa foi inébranlable dans la Géoula. En fait, il faut toujours être conscient de la réalité concrète et des enjeux que cette réalité implique.
Ouais, et vous-même, alors, je parle de court terme, là, c'est-à-dire que ce que les... Est-ce que le fait qu'on ait la Médina de Tel Aviv
Oui, mais c'est très
et...
bien qu'il y ait la Médina Tel Aviv, ça fait partie, si vous voulez, de l'équilibre. Il y a
Non,
une
mais là, ce
sorte.
qui s'est passé hier, enfin la danse des drapeaux avec uniquement des religieux, ça vous chagrine, d'après ce que j'ai
Disons que
compris.
je suis très content qu'il y a des religieux qui se promènent avec le drapeau d'Israël et qui représentent un idéal. Je pense que cela fait partie d'une constellation très importante et que justement les Datim Lioumim, les sionistes religieux, ont un rôle très important, pour dire presque central, dans l'avenir de l'État d'Israël. Est-ce que cela veut dire que tout le monde va se ressembler? Je pense que non, mais que je suis heureux justement de ces drapeaux et des jeunes qui les portent, tout à fait heureux, comme vous l'avez si bien dit.
D'accord. Et on peut dire la même chose pour la pensée de Manitou, qui, c'est vrai qu'elle touche de plus en plus de jeunes. Là, on va remplir Binyan Haoma, le grand centre
Oui,
des
bah.
congrès à Jérusalem.
Oui.
Mais c'est vrai que c'est 95% dans le milieu religieux sioniste, on va dire. C'est-à-dire, ça touche
Écoutez, ça
pas.
intéresse beaucoup de milieux,
Oui.
et je pense que, disons de manière générale, là, il y a une mouvance d'Atiléoumi très forte aujourd'hui en Israël. On pourrait dire à la limite que la majorité écrasante de la société israélienne est orthodoxe. Même, je parle ici également des chilonim. Les chilonim sont des chilonim orthodoxes. Ce ne sont pas des réformés ou des conservatifs. Et donc, on peut dire que le fait que tout le monde se sente touché par Manitou, ça touche en fait pratiquement tous les domaines de la société israélienne, même quand il s'agit de s'y opposer. Je pense qu'aujourd'hui, certains discours qui, disons, me choquent, se font en dialogue avec la pensée de Manitou, justement.
Et est-ce qu'il y a aussi un aspect, alors ça je l'ai pas, bon, je l'ai pas abordé avec votre frère, quelque chose que le judaïsme oriental, on va dire séfarade, a apporté au judaïsme mainstream israélien, c'est-à-dire.
Oui, le judaïsme séfarade a amené à la société israélienne le sentiment de la normalité, de la relation directe avec la vie. C'est pour ça d'ailleurs que souvent on pense que les séfarades sont porteurs de la sentimentalité, tandis que l'intellectuel serait l'ashkénaze, ce qui est évidemment démenti par les faits, surtout de l'Aliyah de France. Mais alors aujourd'hui, il y a une sorte de jonction entre le public séfarade, en tout cas chez ses dirigeants, avec le charédisme ashkénaze. Ce qui fait que ça a donné une sorte de forme caricaturale sous la forme d'un parti prétendument séfarade, mais en fait qui est, comment dirais-je, affilié au charédisme. Mais on voit aujourd'hui en Israël que beaucoup d'éléments sont en train de fusionner, aussi bien au niveau de la culture, même de la musique, de la chanson. Il y a une sorte de culture méditerranéenne qui est en train de se créer. Et qui évolue non pas dans le sens du levantinisme, comme ça a été le cas chez nos voisins, mais justement dans le sens de la plus haute production intellectuelle et civilisationnelle.
D'accord, donc les choses vont dans le bon sens.
Oui, mais écoutez, ça, si vous voulez, c'est pratiquement un défaut permanent chez moi.
Quel défaut. Merci beaucoup, Ravo Richirki, de nous avoir accordé du temps et d'avoir nous avoir éclairé sur
Shalom,
Manitou.
shalom.